Bonjour à tous. Je vous propose de commencer cette conférence. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Au fond, c'est bon? Parfait. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Frédéric Lacombe. Je travaille au sein de la société Intervox, qui est une filiale du groupe Legrand, dédiée plutôt sur le marché des seniors, avec deux activités. Une première activité plutôt sur le maintien au domicile, qui nous intéressera pas aujourd'hui, pardon, et une deuxième activité avec des produits plutôt dédiés pour les établissements type EHPAD ou résidence-service. Donc je vous ai remis le titre de la conférence, pardon, sur la première slide. Donc aujourd'hui, on se rend compte que la sécurité dans les lieux de vie des seniors, comme je le disais, que ce soit dans les résidences-services ou dans les EHPAD, c'est un enjeu majeur, d'accord, pour les établissements qui les accueillent. On verra qu'on a deux problématiques qui sont bien différentes entre la résidence-service et autonomie et l'EHPAD, mais qu'on a des attentes malgré tout qui sont communes et avec des solutions qui sont communes qui pourront répondre pour ces deux types d'établissements. Donc on verra qu'on va travailler à partir de nouvelles technologies, d'accord, donc vraiment de la technologie sans fil qui vont s'adapter aussi bien dans le neuf que dans l'existant. Ce que je vous propose, je vais dérouler la présentation PowerPoint et à l'issue de la présentation, si vous avez des questions, on s'aménagera un temps à la fin pour pouvoir échanger. Donc, si on définit ce qu'est une résidence service ou une résidence autonomie, en fait, dans l'architecture du logement, ce sont des logements qui sont tout à fait conventionnels, d'accord ? Il n'y a pas d'équipement dit spécifique, on va retrouver une installation tout à fait traditionnelle, que ce soit au niveau électrique, au niveau sanitaire, donc voilà, il n'y a pas forcément de choses spécifiques. Par contre, ce qui va faire la différence entre un logement, c'est toute l'offre de services qu'on va pouvoir intégrer dans ces résidences-services. Souvent, on a du personnel qui est là en permanence. On va pouvoir avoir soit des repas qui sont servis à l'intérieur de la résidence ou un portage de repas à domicile. On peut avoir des aides, notamment au niveau du ménage. Et après, il y a différentes activités qui peuvent être proposées. Aujourd'hui, les résidences-services sur le territoire français, ça représente environ 600 établissements, d'accord, et pour une volumétrie de 45 000 logements. Et c'est quelque chose qui a de plus en plus tendance à se développer. Deuxième type d'établissement qui vont nous intéresser, ce sont les EHPAD, d'accord, donc anciennement appelées maisons de retraite médicalisées. Elles vont être équipées de chambres plutôt sur le modèle de bâtiments de soins. C'est-à-dire que autant dans la résidence-service, on n'a pas grand-chose, autant dans l'EHPAD, on a déployé l'artillerie lourde. Quand je parle d'artillerie lourde, on va trouver ce qu'on appelle des solutions d'appel malade, d'accord. Et les gens qui intègrent une EHPAD, ce sont des gens qui peuvent être diminués, mais ce ne sont pas forcément des gens qui sont malades. D'accord ? Donc au niveau de la chambre, on va retrouver des solutions d'équipement, notamment avec des poires au niveau de la tête de lit. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est une poire au niveau de la tête de lit. C'est bon pour tout le monde. Donc en fait, vous avez un manipulateur, d'accord, qui permet d'appeler éventuellement le personnel soignant et dans certains cas, possibilité de commander d'autres fonctions, comme de l'éclairage. Aujourd'hui, il faut savoir que les personnes qui intègrent les EHPAD sont des gens qui sont pour certains pas forcément encore beaucoup mobiles, mais pour d'autres qui sont mobiles et qui ne passent pas leur journée alités dans le lit ou qui ne passent pas la journée assis dans un fauteuil. Quand vous intégrez l'hôpital ou vous intégrez la clinique, vous intégrez ces établissements pour des temps qui sont relativement courts et le temps que vous allez passer à l'hôpital ou à la clinique, vous allez passer beaucoup de temps dans le lit et beaucoup de temps dans le fauteuil, et du coup, le manipulateur qu'on vous met à disposition correspond bien. Dans l'EHPAD, une personne qui, en se levant, chute à 2 mètres de son lit, elle n'aura jamais accès à la poire d'appel. D'accord ? Elle ne pourra pas avoir accès à la tête de lit, ou au pire, il faudrait qu'elle rampe jusque dans les sanitaires pour avoir accès à la tirette. D'accord ? Donc les solutions qui sont proposées aujourd'hui ne correspondent pas forcément aux attentes de ces établissements. Alors, c'est comme ça. Il n'existait rien d'autre. Donc, par dépit, on a installé des systèmes comme ça. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu la population qu'on retrouve dans nos deux types d'établissements, donc l'âge moyen d'entrée à l'établissement recule d'année en année, d'accord ? L'espérance de vie augmentant, les solutions de maintien et d'aide, de maintien au domicile se développant, eh bien, l'entrée dans ce type d'établissement recule. Donc on va retrouver un âge moyen d'environ 77 ans pour l'entrée en résidence service et autonomie. Ça, c'est souvent des gens qui ont perdu leur conjoint, qui se retrouvent seuls, qui se retrouvent un peu isolés, et donc du coup qui intègrent ces établissements pour avoir un lien social. Et on voit que l'âge moyen d'entrée en EHPAD, lui, est de 85 ans. D'accord ? Donc on a des gens qui sont relativement âgés. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, ils peuvent être diminués physiquement, donc ils peuvent être un peu moins mobiles, mais en tout cas, ils restent toujours mobiles et ils ne sont pas cantonnés dans leur chambre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous expliquais tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait des attentes qui étaient très différentes entre la résidence service et l'EHPAD. Les trois principales attentes qu'on va retrouver au niveau de la résidence service, c'est d'avoir une notion de confort. D'accord ? Je veux un logement qui soit confortable, aussi bien au niveau de l'équipement. D'accord ? Ce ne sera pas forcément des équipements spécifiques, mais je veux avoir quelque chose dans lequel je vais être bien. D'accord ? Je vais vouloir malgré tout de la sécurité. La sécurité qu'on retrouve dans ces établissements, on va avoir notamment de la sécurité au niveau de l'entrée, donc on va avoir des contrôles d'accès. D'accord ? Par contre, ce que je vous expliquais à l'intérieur du logement, on n'a rien qui permet de sécuriser notre résident. D'accord ? S'il a un souci dans son logement, il n'a pas forcément de possibilité d'appeler du secours. Les seules solutions qu'ils vont retrouver aujourd'hui, c'est des solutions de transmission téléphonique, donc qu'on se sert pour le domicile. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il va souvent, on va travailler avec un déclencheur porté. Quand je parle de déclencheur porté, on est plutôt, je ne sais pas si tout le monde voit, sur des produits comme ça qu'on peut mettre ou en médaillon ou en bracelet, d'accord ? Souvent relié à un transmetteur téléphonique qui est à l'intérieur du logement, d'accord ? Sauf que si la personne chute à l'extérieur de son logement, d'accord ? Dans un couloir, dans un parking ou simplement en descendant ses poubelles, elle pourra toujours carillonner et appeler sur son déclencheur. Elle ne sera plus forcément en liaison avec le produit qui va se retrouver dans son appartement. Et c'est quelque chose dont elle va faire le choix d'acquérir ce transmetteur. Ce n'est pas quelque chose qui sera équipé d'office dans son logement. Et la dernière chose, c'est ce que je vous expliquais. La troisième attente qu'on retrouve dans la résidence service, comme je vous l'expliquais souvent, c'est des gens qui ont perdu un conjoint, qui se retrouvent isolés, d'accord ? Donc forcément, elles vont vouloir retrouver un lien social. Et elles intègrent les résidences-services qui vont proposer des activités, qui vont proposer des lieux de rencontre. L'EHPAD, on a des attentes qui sont complètement différentes, d'accord ? On va, et là, du coup, ce n'est pas forcément le résident qui a des attentes, même s'il en a. On va parler plutôt de besoins de la part du gestionnaire et de son personnel. On a encore une fois un besoin de sécurité, d'accord ? Donc on va parler de bienveillance, on va parler aussi de responsabilité juridique. D'accord, quelqu'un qui est pas forcément, qui peut être atteint de certains troubles cognitifs, qui n'est pas forcément autorisé à quitter l'établissement et dans certains cas, qui peut franchir la porte et se retrouver dans la rue avec tous les dangers que ça peut représenter. L'autre grosse attente, c'est la priorisation des actions du personnel. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez tous été dans des EHPAD dernièrement, mais on a de moins en moins de personnel et le personnel est de plus en plus sollicité. Le téléphone qu'ils ont dans la poche ou le beeper qu'ils ont dans la poche n'arrête pas de sonner et on ne sait pas pourquoi il sonne. D'accord ? Est-ce qu'il sonne parce qu'on veut un verre d'eau ? Est-ce qu'il sonne parce que la personne a chuté ? Est-ce qu'il sonne parce que j'ai envie de discuter ? D'accord ? Donc, arriver à prioriser le pourquoi de l'appel. Et enfin, bien sûr, et ça va sans dire, l'amélioration des conditions de vie des résidents, d'accord ? D'être le plus présent possible. Et en tout cas, ça va en liaison avec la priorisation des actions du personnel, de pouvoir intervenir au bon moment quand il faut. Donc, comme je vous disais, on a bien deux attentes qui sont différentes, d'accord ? D'un côté, la sécurité, la volonté, le lien social et la notion de confort pour la résidence-service. Pour l'EHPAD, on va retrouver la priorisation des actions, la sécurité et, je l'ai mangé le dernier, et l'amélioration, des conditions de vie des résidents. Donc, l'attente commune, ce que je vous expliquais en début de conférence, l'attente commune qu'on va retrouver pour ces deux types d'établissements, c'est vraiment la sécurité. D'accord ? On a vraiment un besoin de sécurité dans ces deux types d'établissements. Et la sécurité, on va tenter de couvrir deux grands risques. Le premier risque qu'on va tenter de couvrir, c'est la chute. Alors, on n'empêchera pas la chute, je vous le dis tout de suite, hein, si vous êtes là pour trouver des solutions qui empêchent les chutes, j'en ai pas, d'accord ? Par contre, on va essayer, en tout cas, que la personne reste au sol le moins de temps possible et d'être prévenue le plus rapidement possible. Il faut savoir que les chutes, ça représente, et c'est pas négligeable, hein, 40% des causes d'admission en institution et 50% des personnes de plus de 85 ans, donc des gens qui intègrent les EHPAD, font une ou plusieurs chutes par an. D'accord ? Et après une première chute, il faut savoir que le risque de récidive est multiplié par 20. D'accord ? Et le risque de mortalité est multiplié par 4. D'accord ? Alors, au niveau des gens dits chuteurs, comme je vous le disais, on ne pourra pas forcément l'empêcher. On peut retrouver deux types de chuteurs. Il y a la personne qui perd l'équilibre et qui va chuter aussi bien le jour que la nuit. Donc là, on ne peut pas forcément faire grand-chose pour l'empêcher de chuter, sauf essayer de dégager le plus l'espace pour éviter que quand elle chute, elle se cogne, d'accord ? Éviter d'avoir des zones mouillées, par exemple, au niveau de l'établissement. Et deuxième type, de chuteur qu'on peut retrouver, ça va être la personne qui chute plutôt la nuit, d'accord ? Lorsqu'elle passe de la station allongée à la station debout dans le noir, d'accord ? Souvent, elle se lève, elle perd l'équilibre, et là, elle va chuter. Et là, on verra qu'il peut exister des solutions qui permettent d'automatiser l'éclairage lors du lever. D'accord ? Je vous en dirai deux mots dans ma présentation. Deuxième risque, pardon, et là qui va moins concerner la partie résidence-service, mais qui va beaucoup plus concerner la partie EHPAD, c'est ce qu'on appelle l'errance ou plus communément appelée la fugue. D'accord ? On a aujourd'hui, il faut savoir qu'on a environ 10% des lits dans les EHPAD qui sont dédiés à des malades d'Alzheimer. D'accord ? Alors ces gens-là, la solution qu'on a trouvée, c'est qu'on les enfermait. D'accord ? On a des unités dites Alzheimer qui sont sécurisées, d'accord ? Avec des solutions de contrôle d'accès. Un contrôle d'accès, c'est quoi ? C'est que je vais avoir une action à faire pour pouvoir avoir accès à la zone et une action à faire pour pouvoir sortir de la zone. D'accord ? Donc les solutions que vous avez, c'est soit des claviers codés, d'accord ? Soit des boutons sur lesquels il faut appuyer, soit deux actions. J'appuie sur un bouton et je passe sous une cellule, ce qui permet de déverrouiller la porte. D'accord ? Sauf que vous n'avez jamais du personnel qui va être à proximité de la porte et qui va dire attention, est-ce que la porte est bien verrouillée ? Est-ce que la gage de la porte s'est bien fermée ? D'accord ? Et est-ce que le code n'est pas à disposition ? J'ai vu pas mal d'EHPAD ces derniers mois. Il y en a 50 à 60% où vous avez le code qui est marqué au-dessus du digicode. Hein. D'accord ? Il y a marqué pour sortir, taper 1, 2, 3, 4, A. D'accord ? Donc voilà, donc on a du contrôle d'accès. Par contre, on n'est pas forcément complètement, ces unités ne sont pas complètement sécurisées. D'accord ? Donc ce qu'on souhaite, en tout cas ce que souhaitent de plus en plus les directeurs d'EHPAD, c'est de se dire voilà, j'ai une personne qui est dans cette unité sécurisée. Et dès qu'elle va s'approcher dangereusement de l'issue ou dès qu'elle va franchir l'issue, je veux être prévenu. D'accord ? Et enfin, on sait que tous les gens qui intègrent les EHPAD, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'âge moyen est aux alentours de 85 ans. Donc on intègre l'EHPAD à 85 ans et après, on y reste quelques années. Donc on peut avoir des troubles cognitifs en rentrant, ou des troubles cognitifs qui peuvent se développer durant la durée de vie à l'EHPAD. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a à peu près la moitié des résidents qui sont dans des EHPAD qui souffrent de troubles cognitifs modérés à sévères. D'accord ? Donc ça, c'est des gens c'est compliqué de les laisser sortir tout seuls, en tout cas sans être prévenus. D'accord ? Surtout si on est sur des EHPAD qui donnent sur des voies de circulation, on a un risque de danger qui est très important. Si on regarde, donc si on revient sur notre premier risque qui est la chute, on va avoir deux actions possibles. Je vous le disais tout à l'heure, il y a une action de prévention. Dans certains cas, on pourra le faire, mais on ne pourra pas empêcher la chute, d'accord ? Mis à part d'attacher une personne sur son lit, mais c'est pas humain. Donc ça peut être dû à différentes causes, hein, je vous l'expliquais, ça peut être un logement ou une chambre qui est encombrée, ça peut être une zone humide qui va se trouver au niveau du sol, ça peut être une personne qui va faire un malaise, D'accord? Donc, il y a beaucoup de causes qui peuvent expliquer la chute. Et après, on verra l'axe plutôt réaction. Et sur l'axe plutôt réaction, c'est là où on pourra réellement intervenir. Je vous dis deux mots quand même sur la partie prévention. Je vous ai expliqué tout à l'heure nos deux types de chuteurs. Le chuteur courant, on va dire, qui chute aussi bien la journée que la nuit, lui, on n'a pas de solution aujourd'hui pour le sécuriser. On travaillera du coup plutôt sur l'axe réaction et dès qu'il va être au sol, qu'il puisse prévenir rapidement pour dire, ben voilà, j'ai chuté, venez me relever le plus rapidement possible. À l'inverse, le chuteur nocturne, lui, il va falloir qu'on puisse automatiser son lever, c'est-à-dire quand il va passer de la station couchée à la station debout et qu'il va poser le pied par terre avant de se lever, qu'on puisse automatiser un éclairage. Donc là, il existe des solutions, notamment chez Intervox, donc on appelle le parcours lumineux. Pour certains d'entre vous, si vous en avez déjà entendu parler, ce qu'on appelait avant le chemin lumineux. D'accord ? Donc on a travaillé ces solutions, notamment avec des médecins du CHU de Limoges et avec du personnel qui travaillait dans des EHPAD. Alors on a fait des expériences, on s'est trompé, d'accord ? Puisqu'au début, on avait pensé que le chemin lumineux, il fallait le mettre au niveau du sol. Donc ça veut dire que la personne posait son pied par terre, on automatisait l'éclairage et on avait des bandeaux de LED tout autour des plinthes, d'accord ? Sauf que la personne regardant le sol, on favorisait encore plus la chute, d'accord ? Donc on s'était un peu trompé. Donc là, on s'est rendu compte ensuite qu'il fallait en fait relever l'éclairage, d'accord ? Et relever l'éclairage, c'est quoi ? Eh bien, c'est mettre de l'éclairage, pas forcément direct en plafonnier, parce que je vous rappelle que la personne se réveille, elle se lève, si vous lui mettez 60 ou 100 watts dans les yeux, vous allez l'éblouir et on va encore une fois plutôt favoriser la chute. Donc on va travailler plutôt sur de l'éclairage indirect ou des bandeaux LED, mais qu'on va mettre plutôt à hauteur des yeux. D'accord ? Donc de manière à offrir un halo lumineux. Et après, du coup, on faisait le chemin lumineux jusqu'aux toilettes. Et en fait, par expérience, on s'est rendu compte que de baliser jusqu'aux toilettes ou jusqu'à la cuisine, puisque c'est souvent les deux trajets qui sont faits durant la nuit. Hein. Je vais à la cuisine pour boire, et forcément, une fois que j'ai bu, le deuxième lever, c'est pour aller aux toilettes, hein, pour éliminer ce que j'ai bu à la cuisine. Donc là, en fait, on s'est rendu compte que de baliser jusqu'à la cuisine ou jusqu'aux toilettes, il n'y avait pas d'intérêt parce que la personne connaît son logement. D'accord ? Donc après, elle va retrouver l'interrupteur et elle va arriver à allumer la lumière du couloir, la lumière des toilettes ou la lumière de la cuisine. Par contre, il fallait bien qu'on arrive à automatiser le premier lever quand elle pose le pied par terre. Donc dans ce produit, vous allez retrouver, dans cette référence, vous allez retrouver trois produits. Un détecteur de mouvement qui est à pile, d'accord ? Donc on va fixer au niveau de la plainte. Donc dès que la personne va poser le pied par terre, elle va être détectée. Ce produit-là va envoyer une information à une prise commandée, donc une prise qu'on va mettre sur la prise de courant traditionnelle, sur laquelle on branche ce que l'on veut. Donc on peut brancher un éclairage indirect ou on peut brancher un bandeau de LED. Les personnes âgées, elles aiment bien utiliser leurs produits. D'accord ? Donc elles vont, si on dit voilà, on te débranche la lampe de la table de nuit pour mettre un bandeau LED, c'est stigmatisant, c'est pas, elles ne veulent pas ça. Donc on prend la lampe de la table de nuit, on la branche sur cette prise commandée et dès qu'elle va poser le pied par terre, on va lui allumer automatiquement l'éclairage de sa table de nuit. D'accord ? La personne fait ce qu'elle a à faire, ou cuisine ou toilette, hein, je ne vous refais pas un dessin. Et derrière, quand elle va venir se recoucher, soit il y a une certaine temporisation dans le produit, on va attendre que ça s'éteigne. D'accord ? Ça peut aller jusqu'à 3-4 minutes. Mais 3-4 minutes, quand on veut se rendormir, ça peut être long. D'accord ? Donc on va avoir un produit qui a un interrupteur sans fil, qu'on peut poser sur la table de nuit ou scotcher au niveau du mur. Elle appuie dessus et elle rééteint son système. Elle a besoin de se relever dans la minute, elle repose le pied par terre, ça va se rallumer automatiquement. D'accord ? Donc on travaille sur des produits qui sont complètement sans fil. C'est important puisque souvent, notamment quand on est là pour le coup au niveau du logement, alors dans les résidences-services ou l'EHPAD, on a quand même des solutions, des bâtiments qui sont un peu plus récents, mais quand on est dans le logement, l'installation électrique, elle date souvent de quelques années et il est souvent difficile de réintervenir sur une installation électrique, notamment pour des professionnels de l'électricité qui du coup en prennent la responsabilité de l'installation électrique et sont censés les remettre en conformité. Donc ils sont appelés pour mettre une prise, on pense que ça coûtera 50 euros et on se retrouve avec un devis à 1 500 ou 2 000 euros parce qu'il faut refaire tout le tableau électrique. Voilà. Donc on travaille sur des produits radio et on n'intervient aucunement sur l'infrastructure électrique du particulier. D'accord? Et ça, c'est des solutions qu'on a développées à la base pour le logement et qu'aujourd'hui, on nous demande de plus en plus dans les résidences-services et de plus en plus dans les EHPAD. Et l'avantage, c'est des produits radio, c'est des produits mobiles. Je le mets dans une chambre, j'en ai plus besoin dans cette chambre-là. Je le démonte, je le mets dans une autre chambre. D'accord? Donc, je peux avoir un parc, on va dire, de 10 ou 15 parcours lumineux et je peux les affecter dans différentes chambres au fur et à mesure des besoins de mes résidents, que je sois dans une EHPAD ou dans une résidence service. D'accord? C'était la petite parenthèse sur la partie prévention. Ensuite, ce qu'il faut voir au niveau, si on continue un petit peu sur la partie prévention, lorsque la durée du séjour au sol dépasse une heure, d'accord, et la nuit, ça peut arriver, hein, une personne qui chute la nuit, elle a chuté à 2 mètres de son lit, d'accord, elle ne va pas avoir accès à la poire d'appel, elle peut rester une heure par terre, d'accord. Il faut savoir que le risque de décès dans les 6 mois est multiplié par 2, d'accord. D'où l'intérêt de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Nécessité également de pouvoir alerter en mobilité. Ce que je vous expliquais, je ne connais pas une personne qui tombe dans son lit. D'accord ? Si elle est dans son lit, c'est qu'elle n'est pas tombée. D'accord ? Si elle tombe, c'est qu'elle n'est plus dans son lit et qu'elle n'a plus accès, du coup, dans l'EHPAD, elle n'a plus accès au système qui va permettre d'alerter. D'accord ? Donc, on va avoir, je vais vous montrer ensuite les produits, on va avoir une nécessité aujourd'hui pour les soignants. C'est vraiment une attente de la part des exploitants des résidences-services et des directeurs et du personnel soignant dans les EHPAD, de pouvoir localiser l'appel, d'accord, de savoir qui a appelé et quel produit a appelé. D'accord. Donc 20% des chutes, souvent, se produisent dans les parties communes. Donc ça veut dire que mettre des systèmes dans la chambre, c'est bien. Par contre, la personne qui va chuter dans un couloir, c'est dommage pour elle. D'accord. Parce qu'elle n'aura pas de possibilité d'appel. Donc il faut vraiment, et encore une fois, ce n'est pas forcément stigmatisant, travailler avec des produits qui sont dits portés, des déclencheurs portés, hein, comme celui que je vous montrais tout à l'heure, qu'on met ou en bracelet ou en médaillon, d'accord, qui vont permettre d'appeler systématiquement. Donc la solution qui va nous permettre de faire ça. Et encore une fois, si vous regardez ce qui a marqué sur la slide, on parle pas de solution d'appel malade, d'accord. Moi, le système que je vous présente ne sera jamais installé dans un hôpital, ne sera jamais installé dans une clinique, d'accord. Ce n'est pas la vocation de ce produit-là. Comme les produits d'appel malade ne devraient pas être installés dans les EHPAD et dans les résidences seniors, d'accord. Donc, on va travailler sur un système qui va être en tout radio, donc pas de fil à tirer. D'accord, on verra les avantages tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Vous allez voir que la gamme et les équipements sont très très simples. Premier produit qu'on va retrouver, c'est un produit que je vais mettre à disposition du personnel. Donc, on va retrouver quelque chose qui va être mobile pour le personnel. D'accord, donc, dans la journée, on a du personnel. La nuit, on a beaucoup moins de personnel. Donc, un appel malade, on a une centrale d'appel malade qui est ou dans le local infirmière ou à l'accueil. Souvent, dans une EHPAD, vous avez une ou deux personnes la nuit. D'accord ? Si les deux sont occupés, s'il y a une troisième chambre qui sonne, ben, ça arrive au niveau de la centrale et puis ben, la personne attend. D'accord ? Là, on va avoir des produits portés. Donc, le personnel a toujours ce produit sur lui. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va réceptionner sur ce produit-là? On va réceptionner notre appel d'urgence. Mon résident est tombé, il appelle. Je vais récupérer l'info sur mon produit. Qu'est-ce que je vais récupérer comme info? Ce que je souhaite, ce que j'ai mis forcément dans ma programmation. On peut mettre le nom du résident, ou on peut mettre la chambre, ou on peut mettre le nom du résident et la chambre, que je sois dans une EHPAD ou dans une résidence-service. D'accord? Donc, ce sera pas dans la résidence-service, on ne sera pas forcément sur une chambre, on sera plutôt sur un logement. D'accord. Dans les EHPAD, vous avez aussi des services techniques. D'accord. De savoir que j'ai un défaut pile sur mon médaillon, le personnel soignant il va dire, vous êtes bien gentil, mais moi j'ai assez à faire. De savoir que le médaillon de la chambre 4, il est en défaut pile, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Donc on pourra avoir au niveau des services techniques un beeper spécifique qui va recevoir, lui, tous les défauts techniques avant que ça tombe en panne, bien sûr. Donc lui, il va alerter par message, D'accord? Un message écrit. Voilà. Bon, on va avoir un signal sonore et éventuellement un vibreur. D'accord? Tout ça se personnalise par programmation. Hein, je vous passe les détails. On est comme sur un téléphone, on a une batterie à l'intérieur. Le soir, on le repositionne sur sa base, il se charge. Le matin, je le reprends. Inversement, pour le personnel de nuit, ils le prennent le soir et ils le reposent le matin. D'accord ? Si on est sur des établissements importants, on a possibilité de faire des zones. D'accord ? Certaines chambres ou certains appartements qui sont reliés sur un produit et d'autres chambres, d'autres appartements sur d'autres produits. Et la nuit, je couvre l'ensemble de mon établissement. D'accord ? En cas de non-réponse, j'ai fait du zonage, c'est-à-dire que j'ai 10 chambres sur cet appareil-là et 10 autres chambres sur un autre appareil. La chambre 1 appelle cet appareil-là, le soignant ne répond pas. D'accord ? Elle l'a oublié, elle l'a laissé sur la base, elle l'a oublié aux toilettes en se lavant les mains, enfin peu importe, elle ne l'a pas sur elle. On peut faire ce qu'on appelle du renvoi d'appel. D'accord ? Si au bout d'un certain temps, si ce produit-là ne sonne pas, c'est prioritaire, je vais basculer sur le deuxième. D'accord ? Et ainsi de suite, j'en ai 3, 4, 5, après on fait ce qu'on veut. D'accord ? Vous avez également sur ce produit-là, souvent quand on a un résident qui est tombé, hein, on peut tomber sur des personnes qui peuvent être assez lourdes, d'accord ? Et des fois, je peux avoir du mal à le relever, d'accord ? Donc pour éviter de laisser le résident tout seul, de courir chercher de l'aide, vous allez avoir un petit bouton rouge dessus. Donc quand vous appuyez sur le bouton rouge, il n'explose pas le produit, d'accord ? Simplement, il émet une alerte et il va prévenir les autres appareils en disant, voilà, on a tel problème et je suis localisé. D'accord ? J'ai un problème, super. Si je ne sais pas où je suis dans le bâtiment, si je suis obligé de faire tout le tour du bâtiment, je vais perdre du temps. On va me localiser, c'est-à-dire qu'on va localiser qui avait appelé avant. D'accord ? Donc, chambre 3, par exemple. D'accord ? Donc, ça, c'est au niveau du personnel. Alors, aujourd'hui, les questions souvent qu'on a, c'est de dire, bon, c'est très bien votre produit, par contre, nous, en tant que personnel, on est équipé de téléphones DECT, vous savez, les téléphones sans fil qu'on retrouve. Et aujourd'hui, je voudrais recevoir les appels sur mon DECT. Alors, on verra qu'on a une solution DECT. Par contre, aujourd'hui, l'inconvénient du téléphone DECT, c'est que tout arrive sur le téléphone. D'accord ? Vous avez des appels. Dans certains cas, on peut avoir les alarmes incendie qui sont reliées sur le téléphone DECT. Vous avez des appels d'urgence. Donc, du coup, il n'y a plus de notion d'urgence. Et si vous regardez, on a fait l'expérience il n'y a pas très longtemps dans une EHPAD, on a déclenché un appel et on a regardé comment ça se passait. Il y avait deux soignants qui étaient dans le couloir qui étaient très occupés, d'accord ? Mais du coup, il y en a une qui n'a même pas sorti le téléphone de sa poche, l'autre elle l'a sorti, elle l'a quitté, elle n'a même pas regardé ce que c'était. Donc du coup, on n'arrive plus à prioriser entre l'appel pour demander comment je vais, l'appel d'un résident parce qu'il a chuté ou une alarme incendie, d'accord ? Là, vous avez vraiment un appareil spécifique. Si c'est lui qui sonne ou si c'est lui qui vibre, c'est parce qu'il y a un appel d'urgence dessus. D'accord ? Donc il y a une personne, en tout cas, qui a vraiment la volonté d'appeler, qui a vraiment normalement un souci. Deuxième produit qu'on va retrouver forcément qui sera en lien avec ce produit-là, c'est le produit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est notre déclencheur porté. Donc avec la possibilité de le mettre, comme vous le voyez, comme il est là en médaillon, d'accord ? Et on a également la possibilité de le mettre en bracelet. Ce produit est étanche, ça veut dire que la personne va pouvoir le garder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pardon, y compris pendant sa toilette, d'accord ? Donc elle le garde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a besoin d'appeler, elle pourra appeler tout le temps. Alors dans les EHPAD, souvent, les résidents pendant la toilette peuvent être accompagnés. Dans la résidence senior et autonomie, la personne, comme son nom l'indique, est autonome et elle va vivre sa vie et faire ce qu'elle a à faire de manière complètement autonome. Mais elle glisse dans sa douche, elle tombe. Si elle l'a sur elle, elle pourra appeler. D'accord ? Donc là, sur ce produit-là, on va pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, identifier le résident. D'accord ? Donc soit son nom, soit sa chambre, soit son numéro d'appartement, soit l'étage. Voilà, après on met ce qu'on veut. On va avoir un appui pour l'appel, d'accord ? Possibilité de le mettre, comme je vous le disais, en montre en pendentif. On verra qu'on a un lecteur à l'intérieur. On a un petit badge à l'intérieur. On va voir à quoi il nous sert tout à l'heure. C'est marqué dessus, donc vous pouvez le deviner. Tout va se personnaliser par programmation, d'accord ? Et mon système est supervisé. Si mon médaillon a un souci, je serai également prévenu, d'accord ? Il ne s'agit pas, on est là pour répondre à un besoin de sécurité. D'accord ? Si la personne appelle et que ça ne fonctionne pas, on n'a pas le droit que ça ne fonctionne pas. D'accord ? D'accord ? On a également la plus dédiée pour du personnel dans les EHPAD, possibilité d'avoir des bracelets à verrouillage magnétique. Alors, c'est un peu barbare, hein, vous m'excusez, mais dans certaines personnes qui sont atteintes de troubles comme de l'Alzheimer, elles ne le garderont pas. D'accord ? Donc, on va leur verrouiller le bracelet. D'accord ? Comme ça, elles peuvent pas l'enlever. Donc, ce qui est important, c'est que mon produit, il est super, il me permet de faire de la mobilité. Je tombe à 2 mètres de mon lit, j'appelle, ok, c'est chambre 3 qui appelle, très bien. Par contre, je suis dans une pièce commune, j'appelle, c'est chambre 3 qui appelle, dommage, il n'est pas dans la chambre 3. Si j'ai un établissement de 100 chambres, le temps que je trouve où est-ce qu'il est tombé dans la partie commune, soit j'ai de la chance, je tombe tout de suite dessus, soit j'ai pas de chance, et dans certains cas, ils peuvent rester un peu de temps au sol. D'accord ? Donc, on va avoir la nécessité de localiser notre résident. S'il est dans sa chambre, je n'ai pas besoin de le localiser, puisque j'aurai l'identification sur le médaillon. Si on a besoin de localiser, on pourra localiser avec des barrières, d'accord ? Donc qui sont des barrières qui ont la même technologie que le petit badge que j'ai, que le petit lecteur que j'ai à l'intérieur de mon badge. Et en fait, la dernière barrière devant laquelle je serai passé permettra de me localiser. C'est-à-dire que je vais avoir l'information sur mon beeper, je vais dire voilà, c'est monsieur X de la chambre 3. Par contre, la dernière barrière qu'il a vue, c'est le couloir nord, c'est la salle télé, c'est la salle de lecture, c'est la bibliothèque. D'accord ? Donc, on va définir des zones dans notre bâtiment qui vont nous permettre de localiser la personne. Ça, c'est une obligation quand vous avez un produit de mobilité. Quand vous avez la poire d'appel malade, vous n'êtes pas embêté. Hein. Si c'est la chambre 3 qui appelle, il n'a pas arraché la poire. Hein. D'accord ? Donc, il appelle forcément de sa chambre. Là, il peut appeler de n'importe où dans le bâtiment, même à l'extérieur quand on est proche du bâtiment, d'accord ? Parce que les ondes radio passent. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'on puisse le localiser. D'accord ? Donc, le système de barrière, donc, lui, il n'est pas relié sur des piles. Donc, lui, on va souvent le cacher, en tout cas pour la partie alimentation, soit dans un faux plafond, d'accord ? Parce que ce n'est pas forcément très joli. D'accord ? On sortira simplement la partie longue du produit et je l'alimente sur une prise de courant tout à fait normale, et comme je vous le disais, je passe à proximité et donc ça me localise. Je vais avoir la possibilité de mettre deux antennes dans certains cas. Je vais dire voilà, par exemple je tombe ici dans la salle Grenelle, par contre est-ce que je suis tombé à l'intérieur de la salle ou est-ce que je suis tombé dans le couloir. Donc je mets une antenne à l'intérieur de la salle, une antenne à l'extérieur de la salle, et la dernière qui m'aura vu saura si je suis tomber à l'intérieur ou tomber à l'extérieur. On est bien sur un problème de sécurité. On a une personne qui a chuté. Hein, je vous ai montré les chiffres tout à l'heure. Il faut qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible pour qu'il y ait le moins de séquelles possible. Deuxième problématique, et là on est beaucoup moins sur la résidence-service, puisqu'on a vu que l'âge moyen d'entrer à résidence-service est autonomie. Donc là, la personne a bien son autonomie. On considère ça comme un logement. D'accord ? Donc, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Si elle veut sortir, elle est libre. À l'inverse, dans l'EHPAD, on a vu que l'âge moyen, pour rappel, est plus de 85 ans. 50% des gens sont atteints de troubles cognitifs modérés à sévères, sans forcément être au stade d'Alzheimer. Donc, on a la nécessité, en tout cas, soit de pouvoir verrouiller des accès. Alors ça, on verra qu'on peut le faire avec notre produit. Par contre, on n'a pas toujours l'autorisation de le faire, puisque là, dans une EHPAD, on est dans un établissement recevant du public, et il y a d'autres normes qui rentrent en compte, d'accord, notamment les règles sur les systèmes de sécurité incendie. Donc là, imaginez que vous ayez un incendie qui se déclenche, vous avez quelqu'un avec un médaillon qui s'approche, qui dit non, toi, tu n'as pas le droit de sortir. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Donc il faut qu'on puisse prioriser qui prend le dessus. Et vous avez certaines commissions de sécurité qui disent non, nous, on n'autorise pas ce que vous verrouillez les accès. D'accord ? En tout cas, les accès qui permettent de sortir sur l'extérieur. Et en tout cas, ça va nous permettre de pouvoir prévenir et alerter en cas de franchissement d'une zone non autorisée. J'ai ma porte d'entrée, d'accord ? J'ai une personne qui n'a pas le droit de sortir. Quand elle va s'approcher de cette porte, il faut qu'on puisse prévenir. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a toujours aujourd'hui les solutions qui existent. C'est des codes, c'est des boutons, c'est deux actions de pouvoir d'appuyer sur un bouton et de se faire détecter par une cellule. Mais en tout cas, c'est pas. Je suis incapable de prévenir et le système n'est pas infaillible. D'accord ? La porte est restée ouverte pour X raisons. Ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière sur une EHPAD en Dordogne. Il y a une personne d'une famille qui est sortie. Il y a un résident qui s'est engouffré dans la porte derrière. Pas de personnel dans le hall à l'accueil et la personne est sortie. D'accord ? Elle avait le droit, je ne sais pas, en tout cas, elle s'est retrouvée à l'extérieur. D'accord ? Donc il faut en tout cas, à minima, si on ne peut pas l'empêcher de sortir, il faut à minima qu'on puisse le prévenir. D'accord ? Si la personne est sortie et qu'on s'en rencontre au bout d'une heure, même si elle ne marche pas très vite, je vous garantis qu'elle aura fait du chemin. Hein, et avec un risque d'avoir eu un accident sur la voie publique. Donc, avec quel produit on va travailler? Avec exactement les mêmes produits, d'accord? Donc, j'ai toujours mon beeper, sauf que mon beeper, il ne va pas me dire appel d'urgence chambre 3, d'accord? La personne qui est en train de passer la porte d'entrée, elle ne va pas dire tiens, je carillonne et salut, je m'en vais, d'accord? Donc là, simplement, on peut avoir un son qui va être différent. Donc, mon personnel qui a ça dans sa poche ou qui a ça autour du cou va dire tiens, ça fait bip bip, c'est un appel d'urgence, ça fait un son différent. C'est une errance, d'accord ? Ou c'est une tentative d'errance, d'accord ? Donc toujours les alarmes techniques et on reçoit toujours un message sonore et possibilité d'y adjoindre un vibreur et j'ai bien l'identification de la personne qui est en train de sortir. Ça veut dire que dans mon établissement d'EHPAD, je vais pouvoir programmer indépendamment mes différents médaillons. Je n'ai pas tous les médaillons qui disent on a le droit ou tous les médaillons qui disent on n'a pas le droit. J'ai une personne, elle n'a pas le droit, on programmera son médaillon pour que ça puisse prévenir. Une personne qui est plus autonome, qui a le droit à sa mobilité, qui a le droit de quitter l'établissement, eh bien on ne le programmera pas forcément en anti-errance. D'accord ? Le produit, je ne vous refais pas, on a toujours le bouton d'alerte, c'est le même, on ne va pas le redétailler. Le médaillon, ça va être exactement le même, d'accord ? Donc le médaillon, comment ça va fonctionner ? Il va fonctionner même chose avec la même barrière que tout à l'heure, et c'est simplement par une notion de programmation que ça va être différent. Je reprends ma barrière. Hop. Donc là, tout à l'heure, je vous expliquais, quand j'ai un besoin d'appel d'urgence, je passe devant ma barrière, j'appelle. Ok, c'est toi qui m'as vu la dernière fois. Je préviens, c'est la salle télé, c'est la salle Grenelle, c'est la bibliothèque, comme on veut. Ce médaillon peut être paramétré pour de l'anti-errance. Lui, dès qu'il va s'approcher à proximité de l'antenne, et là, je vais définir le rayon d'action de mon antenne. D'accord, je vais de 50 cm à 3 mètres, d'accord, de rayon autour de l'antenne. Dès qu'il s'approche dans ce rayon-là, je vais mettre un bip automatiquement au niveau de mon appareil qui est au niveau des soignants. D'accord ? Que pour certaines antennes, bien sûr. Après, c'est vous, on programme par médaillon et par antenne, tout à fait. Voilà ce que je viens de vous expliquer. Donc le déclencheur porté est programmé pour lui, il va lancer automatiquement une alerte. Alors, on n'a pas forcément. Alors, je ne vous ai pas amené toute la panoplie de produits. Hein. Si vous voulez, vous en avez un stand sur le salon. Pour des gens atteints d'Alzheimer, celui-là, on va éviter. D'accord ? Parce que sinon, ils vont jouer beaucoup avec. D'accord ? Ou pas. Mais du coup, le bouton d'appel, du coup, il ne sera pas utilisé comme il faut. D'accord ? Donc après, on a des déclencheurs spécifiques Alzheimer, d'accord ? Vous n'avez pas forcément la possibilité d'appeler dessus. Vous avez simplement le badge RFID et du coup, il est un peu renforcé, d'accord ? Toujours étanche, et ce qui permet en tout cas de sécuriser ces personnes-là. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, on est sur une technologie qui est 100% radio. D'accord ? Aujourd'hui, la plupart des appels malades que vous retrouvez sur le marché sont des technologies filaires. D'accord ? Ça veut dire que quand vous avez affaire à une technologie filaire, soit vous faites tout, soit vous ne faites rien. D'accord ? Si vous avez 60 chambres, soit vous équipez les 60 chambres, soit vous ne faites pas. Parce que du coup, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a une centrale d'appel qui reçoit tous les appels. D'accord ? Et donc forcément, comme j'ai des fils à tirer entre les différentes pièces, il faut que je fasse tout d'un coup. La technologie radio, elle va nous permettre d'avoir des solutions un peu plus à la carte. Je veux, dans un premier temps, sécuriser mon unité Alzheimer avec mes 12 résidents Alzheimer. J'achète 12 médaillons, 2 appareils pour le personnel et 2 barrières si j'ai 2 accès. Et je commence comme ça. Je veux ensuite l'étendre à 10 chambres. J'ai fait 10 chambres supplémentaires, puis 10 chambres supplémentaires. Voilà, on peut le faire vraiment étape par étape. On a vraiment une solution à la carte et avec possibilité d'avoir des équipements partiels. ça s'installe très facilement, hein, d'accord. Donc ça, c'est pas très compliqué. Avec la programmation qui est à faire sur mon produit pour le soignant, même chose. Et ensuite, au niveau de ce produit-là, en fait, il faut bien penser comment on souhaite définir nos zones. Donc ça, on peut vous aider, hein, à partir de plans ou en se rendant sur site, d'accord. Et il me faut simplement une alimentation électrique qui me permet de le brancher, d'accord. Il y a un autre produit que je vous ai pas amené là. C'est l'inconvénient, parce que pour le moment, je ne vous parle que des avantages de la radio, il y a quand même deux, trois inconvénients. Hein. D'accord, c'est que tout dépend de la structure, de l'architecture des murs, en fait, de notre établissement. Aujourd'hui, la radio et le métal ne font pas forcément très bon ménage. Et si vous êtes sur des établissements un peu anciens, avec des murs porteurs un peu épais, on peut réduire, en fait, la distance de communication entre deux produits. Donc, il faudra qu'on rajoute des bornes, d'accord, qui font un relais radio. Donc, ce qui nous permet d'éviter d'avoir des zones blanches à l'intérieur de notre établissement. Donc là, c'est toujours difficile à dire, parce que souvent, la question qu'on a, c'est combien il en faut. Et là, la réponse qu'on fait souvent, c'est je ne sais pas, d'accord. Puisque là, en fait, tout dépend de la surface du bâtiment. Et là, en général, on fait des tests. Hein. On se met avec un beeper à un endroit, un médaillon à l'autre bout, et on voit combien il en faut, d'accord. Et là, simplement, on va répéter le signal pour être sûr d'avoir aucune zone blanche dans notre bâtiment. On travaille sur une fréquence qui est sécurisée, puisqu'aujourd'hui, ça peut être un peu anxiogène de travailler en radio, parce qu'aujourd'hui, vous êtes tout qui travaille en radio. Hein. Votre télécommande de portail, elle est en radio. Nos téléphones, entre guillemets, c'est plus ou moins de la radio. Il y a du Wi-Fi. Voilà, il y a plein de choses qui existent. Nous, on va travailler sur une fréquence qui est vraiment dédiée à la fréquence d'alerte, qui est du 869 MHz. Donc, aucun autre équipement n'a le droit de se positionner sur cette fréquence-là. D'accord ? Donc, c'est pour ça que c'est sécurisé. Et de toute façon, même si ça ne fonctionnait pas, vous aurez une alerte en disant attention, il y a un défaut de liaison radio entre tel produit et tel produit. En général, la question qui arrive, c'est combien ça coûte, non ? Non. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que il me reste deux slides et après, du coup, on vous passera un micro, parce que d'une part, je ne vous entends pas. Parce que du coup, il y a vachement de bruit à l'extérieur. Voilà, donc après, on passera un micro et il nous reste un bon quart d'heure, voilà, ce qui nous permettra d'aborder les questions. Je termine juste. Comme vous ne l'avez pas posé, je vous en parle. D'accord, combien ça coûte ? Parce qu'à un moment donné, c'est le nerf de la guerre, il est là. Alors, c'est un prix moyen que je vous ai fait. Hein, d'accord, parce que moi, je suis fabricant, je n'installe pas. D'accord, donc moi, pour installer, comment ça se passe ? Je fais appel à un réseau d'installateurs partenaires. D'accord, donc eux, forcément, je leur vends le matériel. Pour gagner un peu leur vie, il faut une petite marge sur le matériel. Et forcément, ils vont vous rajouter un peu de main-d'œuvre aussi, parce que ça va nécessiter un peu de temps pour programmer et un tout petit peu de temps pour poser, parce que vous avez vu que la pose est relativement rapide. Donc là, j'ai fait l'exercice avec un installateur sur une EHPAD de 60 lits, d'accord, sur lequel on a mis un appel d'urgence, on a mis des barrières pour faire de la localisation et de l'anti-errance. Et on arrive à un coût pour l'établissement, que je sois en résidence, service ou là, en l'occurrence, sur une EHPAD, de 365 euros hors taxes par chambre. D'accord ? Donc, on est sur un coût qui est relativement raisonnable. Après, je ne sais pas si vous avez des notions par rapport à des appels malades traditionnels. On va être tout de suite sur des coûts qui sont beaucoup plus importants. Je reviens sur l'objection que vous émettez tout à l'heure. Il y a des gens qui disent, voilà, moi, votre produit, super, ça me plaît bien. Par contre, moi, j'ai un DECT dans la poche, j'ai le stéthoscope autour du cou. Rajouter un autre appareil dans la poche, j'en veux pas. Et si le personnel n'est pas convaincu, ça ne sert à rien parce qu'il restera sur la base. Et du coup, ben, dès que le résident carillonnera sur son émetteur, on n'arrivera pas. Enfin, du coup, ça ne donnera pas au niveau du soignant. Donc, on a une gamme également qui va permettre de renvoyer l'appel sur un DECT, d'accord, sur téléphone. D'accord. Encore une fois, avec les inconvénients que je vous donnais tout à l'heure, le DECT, tout arrive dessus. D'accord. Donc, il va bien falloir expliquer à la personne que, dans certains cas, c'est l'appel d'urgence. Et alors, sur certains DECT qui sont un peu plus évolués, j'ai des sonneries spécifiques. Alors, l'inconvénient du DECT spécifique, c'est que souvent, elles l'ont dans la poche, d'accord, le soignant. Dans certains cas, elle se penche et vous avez un paquet de DECT qui finissent noyés dans les toilettes. D'accord ? Ça arrive. D'accord ? Donc après, quand il faut les remplacer, on les remplace pas forcément par des DECT qui sont très évolués. D'accord ? Et du coup, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir plusieurs sonneries. Si on a plusieurs sonneries, c'est l'idéal. D'accord ? Le petit plus qu'on va retrouver à ce niveau-là, et c'est alors là, du coup, plus dédié aux résidences services qu'au niveau des EHPAD, c'est le produit que vous avez ici, qui est complètement à gauche de l'écran. D'accord ? C'est un produit qui va nous permettre également d'avoir de la phonie. D'accord ? Alors, au niveau de la résidence service, j'appelle, je sais que c'est l'appartement numéro 3. D'accord ? Et souvent dans la résidence service, pour le coup, j'ai qu'une personne qui est soit dans la résidence, soit qui peut être à l'extérieur de la résidence. D'accord ? Et donc là, je vais pouvoir, via mon combiné téléphonique, rentrer en communication avec elle. En disant, qu'est-ce qui se passe, madame ou monsieur, d'accord ? Je suis tombé, j'ai fait un malaise, j'ai glissé dans la salle de bain. Donc là, on a la possibilité de rentrer en communication avec la personne. Donc ces produits de phonie, on va les mettre bien sûr à l'intérieur du logement et on pourra également les positionner au niveau des pièces communes. On peut mettre une au niveau de la bibliothèque, une au niveau de la salle de rencontre, une au niveau de la salle télé. Donc voilà, ce qui nous permet de mettre de la phonie. Et ça, encore une fois, c'est l'avantage de la radio. J'ai différentes options et je prends ce qui m'intéresse. Et dans un premier temps, je ne veux pas le mettre, je veux le mettre après. J'aurai toujours la possibilité de le mettre par la suite. Je suis ouvert à vos questions. Donc, monsieur avait une question ici. Attendez, avant de passer le micro, il n'y a pas que moi qui ai droit au micro.
Oui, un Alzheimer qui a son émetteur,
oui.
Et qui tombe. Oui. Comment alors, il fait pour appuyer ?
Alors, sur le déclencheur Alzheimer, il ne pourra pas appuyer, d'accord. Après, on a un émetteur détecteur de chute. D'accord. Donc là, on pourra mettre un émetteur avec détecteur de chute. D'accord. Ça existe. Après, on n'a qu'une heure, d'accord. L'objectif, ce n'était pas de vous présenter que les produits non plus, c'était bien de vous expliquer la problématique. Après, si vous voulez plus d'infos... Alors pour certains d'entre vous, je vous ai déjà vu sur notre stand, hein. On a un stand, c'est au G08, donc on a plus de produits à vous montrer, voilà, et on prendra un peu plus le temps de vous expliquer cet après-midi si vous avez d'autres questions.
Bonjour, concernant les antennes, est-ce qu'il y a, en cas de coupure électrique, est-ce qu'il y a des batteries qui prennent le relais ?
Bien sûr, on a une autonomie de 3 jours sur la batterie, sur l'antenne relais, tout à fait.
Okay,
et de toute façon, quand elle va arriver en bout de sa batterie, vu qu'on a une surveillance technique, vous aurez en dernier recours, il y aura un message qui va être envoyé au niveau du beeper ou du DECT en disant attention, je suis en train de rendre l'âme du coup. Parfait. S'il y en a qui sont intéressés, je vous ai ramené un peu de doc. Donc là, vous allez retrouver les deux gammes que je vous ai montrées, hein. La gamme sans renvoi sur téléphone et la gamme avec renvoi sur téléphone. Et sinon, on est à votre disposition sur notre stand. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon appétit. Merci.